En exergue de leur bouquin, ils citent Benjamin Franklin et Jean Racine. De Benjamin Franklin, ils citent cet aphorisme « Trois personnes peuvent partager un secret à condition que deux d'entre elles soient mortes. » Et de Jean Racine, dans Britannicus, « Il n'est point de secret que le temps ne révèle. »
Alors, quand est-ce que l'affaire prend pour vous une autre tournure ?
En fait, on s'y intéresse très tardivement. On s'y intéresse, en réalité, à la rentrée 2008, lorsque on va s'intéresser à un dossier qui, a priori, n'a rien à voir avec ça, qui est un dossier de malversation financière mettant en cause la direction des constructions navales. Et en examinant un peu le dossier judiciaire, on va tomber sur une série de documents qui, apparemment, n'avaient intéressé personne, et notamment pas la justice, qui évoque un certain nombre de faits, notamment l'attentat de Karachi, et qui livre une thèse qui paraît assez hallucinante, mais qui paraît aussi par ailleurs bien renseignée. Et donc on va s'intéresser à cette thèse, et c'est nous les premiers donc, qui allons révéler l'existence d'une autre piste pour expliquer cet attentat. Pour l'essentiel, il y a deux types de documents. Il y a des rapports internes à la DCN qui ont un nom de code qui est Nautilus. Ce sont des rapports qui ont été rédigés par un ancien policier de la DST qui a mené des missions pour la DCN et qui a essayé d'explorer justement les circonstances de l'attentat de Karachi. Et par ailleurs, il y a un mémorandum assez complet du directeur financier de DCN, M. Menayas, qui évoque tout un tas de contrats sulfureux passés par la DCN. Dans les deux cas, il y a un point commun, les deux hommes évoquent l'attentat de Karachi. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, en fait, quelques semaines après l'attentat, la piste politico-financière, en fait, est déjà connue. En tout cas, elle est connue de la DCN. Et ce qui est frappant, voire choquant, c'est qu'à aucun moment, la DCN ne va informer la justice, alors que la justice française a ouvert une enquête, comme à chaque fois qu'il y a des ressortissants français qui meurent à l'étranger, il y a une enquête antiterroriste menée par le juge Bruguière, et à aucun moment, la DCN ne va communiquer ces éléments à la justice française.
Officieusement, au sommet de l'État, on sait qu'il y a une autre piste, et pourtant, officiellement, on vient dire aux victimes, aux médias, à tout le monde, c'est Al-Qaïda, c'est Al-Qaïda, c'est Al-Qaïda.
Oui, c'est-à-dire que la piste Al-Qaïda était très confortable pour tout le monde, il faut bien être honnête. Al-Qaïda, c'est une espèce de monstre insaisissable qui est par nature l'ennemi absolu de l'Occident. Et donc, évidemment, ça n'embête pas grand monde de dire que c'est Al-Qaïda.
Je ne peux pas parler sur la pertinence des éléments nouveaux.
BFM,
je dis simplement,
11 novembre 2009.
J'évoque ce qui a été fait et qu'aujourd'hui, je pense qu'il est incontestable.
Jean-Louis Bruguière.
Que l'attentat lui-même est l'œuvre d'une organisation liée à Al-Qaïda, une organisation pakistanaise.
C'est une affaire qui apparaît complexe, incompréhensible souvent de l'extérieur. En fait, c'est qu'il y a deux affaires. Et deux affaires qui sont peut-être liées.
Ce qui peut rendre l'affaire complexe, alors que si on prend les éléments les uns après les autres, elle ne l'est pas tant que ça. Mais ce qui rend l'affaire complexe, c'est un problème de temporalité. Puisque finalement, on va dire qu'il y a trois dates repères dans cette histoire, mais qu'on aborde dans le désordre chronologique. Pourquoi ? Parce que l'élément, on va dire, fondateur, le plus spectaculaire, ce qui fait de cette affaire une affaire ou une affaire d'État, c'est l'attentat de Karachi. Il est commis en 2002. Or, pour comprendre cette affaire, il faut s'intéresser à ce qui s'est passé en 1994 et en 2008. Et donc on est en permanence dans ces trois époques, dans ces trois périodes qui s'entremêlent et qui rendent parfois la lecture de l'affaire difficile.
Donc Fabrice Lhomme, journaliste à Mediapart, co-auteur du contrat, repartons de 1994, de l'ambiance, du climat politique en France au milieu de ces années 90. En 1994, à l'été 1994, Édouard Balladur est au plus haut des sondages et il envisage une candidature à l'élection présidentielle. Avec pour rival Jacques Chirac, qui lui dispose, pour ainsi dire, de fonds à volonté pour mener sa campagne présidentielle, à la fois parce qu'il détient le RPR et parce qu'il détient la mairie de Paris. Et lui, Édouard Balladur, n'a pas ces renforts financiers-là pour assurer une campagne présidentielle. Donc il lui faut trouver d'autres fonds à l'époque.
Voilà, c'est effectivement l'enjeu principal de cette période, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les baladuriens ont décidé que leur poulain pouvait concurrencer Jacques Chirac et pouvait faire un candidat crédible, et il a fallu financer ses activités, financer la campagne. Une campagne électorale, ça coûte très cher. Donc il y a eu cette frénésie de contrats d'armement qui ont été signés dans l'urgence par le gouvernement Balladur.
C'est-à-dire que là, pendant l'automne, au début de l'automne 1994, On voit le gouvernement Balladur, c'est-à-dire à l'époque le ministre de la Défense François Léotard, Édouard Balladur lui-même, son directeur de cabinet Nicolas Bazire, éventuellement ministre du budget Nicolas Sarkozy, s'activer pour